Le journal, Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
Dans l'actualité de ce samedi, retour sur cette soirée des Césars où Roman Polanski, visé par des accusations de viol, a été primé 3 fois malgré les protestations.
Les autres titres, nous irons à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, principal foyer du coronavirus en France, un regroupement de cas qui préoccupe particulièrement les autorités. Et puis aux États-Unis, où Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, va tenter de se relever aux primaires démocrates dans l'État de Caroline du Sud. Il mise sur le vote des Afro-Américains.
Les invités du 6-9 à 8h10 avec Patricia Martin, Serge Toubiana, ancien directeur de la Cinémathèque, qui publie chez Stock L'Amie américaine. À 8h20, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Damien Abad, avec lui question sur la stratégie du gouvernement face à l'épidémie de coronavirus et bien sûr la réforme des retraites au Parlement. Faut-il utiliser l'article 49.3 ?
France Inter. Ambiance pour le moins singulière hier soir au César. Cette 45e cérémonie aura cristallisé toutes les tensions du moment dans le monde du cinéma français. Polémique sur la parité ou la diversité à l'écran, crise de gouvernance au sein de l'Académie et enfin, Roman Polanski, le cinéaste absent de la soirée visé par des accusations de viol, a reçu le prix de la meilleure réalisation pour son film J'accuse. Récompense également pour ses décors et pour la meilleure adaptation. 3 statuettes en tout qui ont provoqué le départ de la salle de l'actrice Adèle Haenel, elle qui a raconté il y a quelques mois avoir été abusée sexuellement dans le milieu du cinéma à l'âge de 12 ans. Une soirée décidément très spéciale, analysée par Eva Bétain.
Meilleur film, Les Misérables. L'apothéose pour les gars de Montfermeil et l'Adjili hier soir, appelant à l'unité des Français. Notre seul ennemi, c'est la misère. En temps normal, cette photo-là prendrait toute la place et on noterait encore que les Césars des meilleurs acteurs sont allés dans le même sens, d'un cinéma qui interroge le pacte démocratique. Roche Dizem, dans Roubaix une lumière, Anaïs de Moustier dans Alice et le maire. Tout ceci est vrai, mais c'était une année particulière avec cette question: est-ce que les polémiques allaient inciter les votants à exclure J'accuse de Roman Polanski, malgré la qualité cinématographique, film sur l'affaire Dreyfus, de leur choix? 3 Césars, dont un de taille, le deuxième en importance, qui s'adresse en propre au cinéaste, meilleur réalisateur. Et ce sont 2 réalisatrices, Claire Denis et Emmanuelle Berco, qui ont joué les remettantes pour ce prix-là, à un Polanski certes absent, mais le symbole demeure. Adèle Haenel, qui a dit récemment que distinguer Polanski serait cracher au visage de toutes les victimes, a quitté la salle accompagnée de Céline Sciamma, seul éclat de cette soirée.
Alors Nicolas Bedos, heureux d'avoir obtenu le César du meilleur scénario original pour La Belle Époque, revient sur ce climat de tension de la soirée au micro de Corinne Pellissier.
Je prends acte de la force de la séquence, comme on dit en politique. Je ne parle pas de ce qui s'est passé juste ce soir, en général, de la séquence de cette espèce de combat des femmes. Et je tais ma voix de mâle blanc dominant, comme on dit, de façon discutable. Voilà, ça serait malvenu et sans doute illégitime maintenant. Après, je pense qu'il y aura beaucoup à dire sur tout ça. Il y aura beaucoup à dire, il va falloir que les uns et les autres, on se réconcilie, qu'on réfléchisse, qu'on avance. Mais tout de suite, là, en ce moment, c'est aux femmes de parler, ça n'est pas à moi. L'écriture du film, l'interprétation du film, c'est magique, ce que je vis moi ce soir. C'est magique, et pardon d'être un peu égoïste, mais je ne pense pas ni à Polanski, ni à Céline Sciamma, ni à rien. Je regarde Fanny Ardant et je regarde mon bonheur.
Nicolas Bedos avec Corinne Pellissier. La France compte désormais 57 cas positifs au coronavirus, 19 de plus en 24 heures, dont 6 à Annecy, qui ont un lien avec un voyage en Égypte, et 2 cas à Montpellier. Le principal foyer se trouve toujours dans l'Oise, avec désormais 18 malades recensés. Mais hier soir, l'ARS refusait de donner des précisions sur ces 6 nouveaux cas. Ils sont en lien avec les 2 patients initiaux, dont on ignore toujours comment ces 2 premiers cas ont été contaminés au coronavirus, car aucun des 2 n'avait voyagé dans un pays à risque. Alors l'enquête épidémiologique suit son cours, mais hier le ministre de la Santé a fait son point presse quotidien depuis la mairie de Crépy-en-Valois, suivi d'une réunion hier soir, sans le ministre, mais avec le préfet et les élus. Reportage à Crépy-en-Valois de Mathilde Dehimy.
Premier sujet de préoccupation des élus, le collège public de Crépy-en-Valois. Fermé jusqu'à jeudi, seuls les 185 élèves en contact avec le professeur décédé vont être dépistés. Ce n'est pas suffisant, insiste Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l'Oise.
Les familles ont besoin d'être rassurées. Et moi, je dis qu'on ne peut pas laisser des familles dire « ben non, votre enfant ne sera pas dépisté parce qu'il n'était pas au contact de l'enseignant ». Même si c'est vrai, il faut pouvoir recevoir les familles qui ont envie d'être reçues. Il faut expliquer à ces familles. Donc moi, c'est ça que je demande. Je demande qu'on explique.
Beaucoup d'élus se sont plaints d'être tenus à l'écart et de découvrir les informations sur leur propre commune lors du point presse ministériel. Difficile alors d'anticiper d'éventuelles annulations d'événements si on ne sait rien, déplore le maire de Creil. Il faut améliorer la communication entre élus, confirme le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
Moi, j'ai vu un ministre de la Santé mobilisé et totalement transparent. Mais sur des sujets comme ça, il faut qu'on joue tous l'unité. Et c'est de savoir si, même si les collectivités locales ne sont pas en première ligne, comment on peut aider à être efficace.
S'il faut fermer temporairement d'autres établissements scolaires, on le fera, confirme Xavier Bertrand. Le rectorat attend pour prendre sa décision de nouveaux résultats dans l'enquête épidémiologique.
Ajoutons qu'Emmanuel Macron présidera ce matin un conseil de défense suivi d'un conseil des ministres exceptionnel pour faire le point sur l'épidémie. Alors c'est désormais en Corée du Sud que le virus se propage le plus vite avec 571 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Ce pays est le deuxième le plus touché après la Chine. La Chine dans l'activité, dans le secteur manufacturier est tombée à son plus bas niveau jamais enregistré. Accablée également par le coronavirus, les bourses mondiales elles encaissent mal le coup. Wall Street a connu hier soir sa pire semaine depuis la crise financière de 2008. Chez nos voisins suisses, inquiets de la propagation du Covid-19, il a été décidé d'annuler le salon de l'auto de Genève, les matchs de football du week-end, les carnavals ainsi que tout événement public ou privé majeur. Annuler également le symposium de l'AMA, l'événement annuel dédié à la lutte contre le dopage. Et puis enfin, les États-Unis commencent à enregistrer leur premier cas en Californie et dans l'Oregon. Retour en France où moins d'une semaine après la grave blessure d'un jeune homme de 19 ans éborgné par un LBD samedi dernier en Essonne, le policier soupçonné d'être l'auteur du tir a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire hier soir. Son concert était annoncé sous haute tension. Le retour de la star congolaise Fally Ipupa hier à Paris a suscité la colère des opposants de la diaspora qui ont bravé l'interdiction de manifester et incendié des véhicules. Des incidents qui ont conduit à plus de 70 interpellations. Le chanteur de rumba congolaise accusé d'être proche du pouvoir en place en République démocratique du Congo ne s'était pas produit en France depuis des années, par peur précisément de débordement.
Il est 7h07, le journal Laurence Thomas. Laurence, la Caroline du Sud vote aujourd'hui dans le cadre de la primaire démocrate aux États-Unis.
C'est le quatrième État à voter et le premier à compter une forte communauté afro-américaine. 60% de l'électorat démocrate est noir, d'où l'enjeu majeur de ce scrutin. L'ancien vice-président de Barack Obama, qui a fait de très mauvais scores jusqu'à présent, mise tout sur cet État pour se relancer. Et il est donné favori. C'est le reportage de notre envoyé spécial à Charleston, Isabelle Raymond.
Au local de campagne de Joe Biden à North Charleston, dans un quartier essentiellement afro-américain, les volontaires battent le rappel au téléphone.
Oh, ok. Is Joe Biden your guy? Oh, okay. Great, great. He's my guy also.
Cette jeune vétérante de l'armée américaine vient ici trois fois par semaine comme volontaire.
Thanks again, Miss Fee. He will be making a change.
Joe Biden va changer la Caroline du Sud et le pays, me dit-elle. Et oui, le fait qu'il ait été le vice-président d'Obama compte beaucoup pour moi.
Makes a big difference. Makes a big difference.
Dans les meetings de Joe Biden, l'assistance est mélangée, blancs et noirs réunis, mais plutôt âgés. Les jeunes, quand ils votent, choisissent Bernie, explique Willy, qui dit avoir fait un choix plus modéré. Biden a l'expérience, ajoute-t-il. J'espère vraiment qu'il va pouvoir sortir le locataire actuel de la Maison Blanche. Il n'aurait jamais dû y entrer. Joe Biden affirme qu'il va remporter la Caroline du Sud. Il est donné grand vainqueur ici, plusieurs points devant les autres candidats. Charleston, Isabelle Raymond, France Inter.
L'hiver 2019-2020, c'est-à-dire les mois de décembre, janvier et février, s'annonce comme les plus chauds jamais enregistrés en France, avec une température supérieure de 2,7 degrés à la moyenne. 16 départements, ça n'a rien à voir, mais 16 départements sont placés ce matin en vigilance orange au vent violent par Météo France. Et une météo complète, Pierre, dans un instant.
Dans quelques secondes, c'était le journal de Laurence Thomas.